Bonjour, bienvenue sur l'entrée des coulisses, le podcast qui vous offre une bulle hors du temps pour découvrir le monde artistique en trois rubriques, comme autant de portes de coulisses à ouvrir. Je suis Isabelle, artiste de la compagnie de théâtre La Danse des Mots et médiatrice culturelle. Toute petite déjà, je bricolais des émissions de radio sur mon magnétophone à cassette. Et aujourd'hui, je produis ce podcast pour créer un pont entre vous et des créateurs, créatrices de tout horizon. Mon objectif, vous faire passer un bon moment, vous faire découvrir ce que vous connaissez peu ou ce que vous connaissez mal dans le monde artistique. L'épisode est ici en intégralité, mais les trois rubriques sont écoutables séparément. Les liens directs sont dans la description de l'épisode. Alors, fans de culture, si vous êtes curieux, curieuse, vous êtes au bon endroit. Et je serai votre guide. Allez-y, en coulisses. Hello, voici donc le deuxième épisode de la saison 4. Comment allez-vous depuis septembre? Tiens, est-ce que vous êtes allé sur le compte Instagram dédié au podcast? Non? Ah bah, il faut y aller. Vous aurez encore plus de coulisses et vous pourrez échanger avec moi sur le contenu des épisodes. Le lien est dans la description. Alors oui, c'est l'automne. Moi, c'est une saison que j'aime beaucoup, mais c'est vrai que c'est une saison qui peut paraître morose pour certaines personnes. Alors, je vous ai concocté un beau programme pour vous offrir une nouvelle bulle d'évasion dans votre quotidien. Et cette nouvelle bulle, elle est douce et positive. Voici le programme. Je vous emmène à la découverte d'une toute nouvelle compagnie dont le spectacle est à l'affiche et c'est Zaya Guinchard qui vous en parle. Vous allez entendre la belle interview du duo à la scène comme à la ville, les danseurs et comédiens Claire et Anto, et leurs mots vont vous faire du bien. Je vous conseille d'écouter leur longue interview, j'ai été incapable de couper plus. Et pour clore l'épisode, retrouvons Marion Lorgnet de Théâtre en mille et un lieux. 2003 marque le centenaire de la mort de Sarah Bernard et grâce à Marion, nous allons encore apprendre pas mal de choses sur cette fabuleuse actrice. Allez-y, en coulisses. Comme dans les précédents épisodes de la saison 3, j'ai demandé à des compagnies de venir au micro de l'entrée des coulisses pour parler de leur travail. Vous allez donc découvrir aujourd'hui la compagnie Tout pour plaire et c'est l'une des fondatrices, Zaya Guinchard, qui est venue en parler.
Bonjour, alors je suis Zaya Guinchard et je suis comédienne.
Alors Zaya, vous êtes dans la compagnie Tout pour plaire. Moi, je trouve que c'est super joli comme nom de compagnie. Ça vient d'où? Comment vous l'avez choisi, ce joli nom?
Alors, c'est pas moi qui ai choisi ce joli nom, mais Geoffroy de Schrevels, donc la personne avec laquelle je me suis associée pour monter notre asso, notre compagnie. Donc, on réfléchissait à des noms et puis c'est lui qui a suggéré ce nom. Et tout comme vous, j'ai trouvé ça joli et puis Tout pour plaire, c'est aussi, c'est pas nous tout pour plaire, mais c'est tout pour plaire pour les autres en fait. Faire tout pour plaire, pour essayer de donner de l'émotion, du rire voilà, au public.
C'est joli en tout cas. Le nom et l'intention sont très jolis. J'ai l'impression que cette compagnie est très récente. Elle existe depuis combien de temps?
Alors, récente, oui et non, parce qu'en fait, c'est l'histoire d'un coup de cœur théâtral. Les personnes, on est là actuellement six comédiens, mais on se connaît depuis très longtemps en fait, pour la plupart. On s'est rencontrés lors de divers projets théâtraux et voilà, on est tous animés par la même passion du théâtre. On s'entend très très bien et voilà, et puis ensuite on a eu l'envie, alors ça vient plus de moi et de Geoffroy et moi-même, à un moment donné, on a eu envie de monter nos propres projets, de choisir nos pièces, les personnes avec qui on avait envie de travailler. Mmh. Et c'est de là qu'est venue la création de Tout pour plaire, avec des acteurs qui font partie de la toute première pièce de la compagnie. C'est des acteurs qu'on connaît de longue date, avec qui voilà, il y a un réel lien d'amitié.
Mmh. Vous avez cité Geoffroy, vous pouvez donner son nom?
Geoffroy de Schrevel.
Donc c'est avec lui que vous avez créé cette toute nouvelle compagnie.
C'est mon complice d'aventure, oui.
D'accord. Quelle vision artistique vous avez pour cette compagnie?
Pour l'instant, notre ambition est simple et pas si simple. C'est vraiment amuser le public, en fait. C'est donner de l'émotion. Et ça passe par le fait aussi, c'est important pour nous d'être entouré de personnes. Nous, quand on répète, quand on joue, en fait, on s'amuse. Parfois, on a parfois même du mal à travailler tellement c'est drôle et tellement on rigole. Donc, on espère vraiment que ça, on aimerait que ça, le public le ressente, en fait. C'est vraiment, d'apporter, de la joie, de la bonne humeur.
D'où le nom, quoi, hein, Tout pour plaire. Vous-même, Zaya, vous êtes comédienne. Quel est votre parcours?
Alors, moi, j'ai un parcours
atypique.
Oui, parce qu'en fait, moi, j'ai commencé il y a très, très longtemps dans l'édition, dans le monde de l'édition. Oui. Par la suite, je me suis reconvertie en tant que naturopathe. Et le théâtre, par contre, c'est une passion que j'ai depuis 20, 30 ans et qui ne s'est jamais démentie et qui a fait que croître, finalement. Et aujourd'hui, donc, c'est vrai que j'ai la chance de vivre de mes deux passions, que sont le théâtre et la naturopathie, où j'accompagne surtout les femmes, en fait, aux différentes étapes de leur vie.
D'accord. C'est aussi une jolie mission, ça.
C'est une très, très belle mission.
Vous serez donc sur scène à la rentrée, au Théâtre Galabru à Paris, du 14 septembre au 14 décembre, les jeudis, à 21h30, c'est bien ça, Zaya. Ouais. Donc, au moment, en tout cas, où on enregistre cet épisode, c'est votre actualité. La pièce, c'est Un stylo dans la tête, de Jean Del. Pourquoi avoir choisi cette pièce particulièrement?
On a longtemps cherché. Donc, Jean Del, c'est un auteur qui est assez connu, hein, qui a fait qui a écrit pas mal de pièces qui ont eu pas mal de succès, hein, Petit jeu sans conséquences, notamment, qui s'est joué à Paris pendant très très longtemps. Donc, Le Béret et la Tortue aussi, qu'on souhaitait monter et qu'on montera peut-être dans le futur. Oui. Écoutez, c'est le sujet, en fait, hein, on a trouvé le sujet assez intéressant, même si les personnages sont assez caricaturaux, c'est même un peu cliché, mais c'est justement ce qui fait rire. Mmh. Et on se retrouve vraiment, je pense que chacun peut se retrouver dans certaines situations, et c'est ça qui est drôle. Alors la pièce Un stylo dans la tête, c'est l'histoire d'un auteur, Victor Aubrac, un auteur à succès, qui a invité les meilleurs amis de sa femme pour leur annoncer qu'il a écrit une pièce sur eux. Et bien sûr, tous les personnages, il y a quatre invités, c'est un peu des caricatures, hein. Vous avez l'emmerdeuse, le crétin, la dépressive, l'homosexuel, voilà, ça peut paraître un peu cliché, un peu lourd, mais finalement, c'est ça qui permet d'amener la drôlerie. Dans les pièces, il y a des répliques qui font vraiment mouche. L'auteur aurait pu écrire une comédie dramatique, il en a fait un truc de drôle et c'est ça qui est super intéressant, en fait. Et puis c'est une pièce où on est tout le temps sur scène, tous les six, où on joue vraiment ensemble, en fait. Hein, c'est vraiment, on sent le fait d'être très complice, en fait, ça se sent sur scène. Et ça, je trouve ça super intéressant, super passionnant et voilà. En tout cas, nous, on a pris beaucoup, beaucoup, beaucoup de plaisir à répéter et à la travailler. Et j'espère que le public prendra autant de plaisir à la voir que nous à la jouer.
Une fois qu'on a donc monté une compagnie de théâtre, qu'on a la structure juridique, qu'on a la structure administrative, donc la compagnie existe, une fois qu'on a trouvé la pièce, quelles ont été les étapes? Comment vous avez concrétisé votre projet?
Bon, bah, écoutez, là, on s'est lancé, hein, parce que, alors, moi, ce côté administratif, je l'avais pas, donc, j'ai appris, hein, sur le tas, donc, on a fait tout ce qu'il fallait, donc, et ensuite, le metteur en scène, c'est quelqu'un avec qui, moi, je travaille depuis des années, c'est quelqu'un dont j'adore le travail,
Vous pouvez le citer son nom?
Oui, bien sûr, c'est, Arnaud Alain.
Oui.
Donc, un metteur en scène, talentueux. Il a travaillé avec la plupart d'entre nous, et il a déjà travaillé avec la plupart d'entre nous, donc il a D'accord. mis en scène plusieurs projets auparavant. Voilà, c'est quelqu'un qui nous connaît bien, qui sait comment nous faire travailler, comment faire ressortir le meilleur de nous, et comment appréhender un rôle. Et bon, il est extrêmement exigeant.
Et comment se sont passées les répétitions? Alors, quelles ont été les difficultés, peut-être, que vous avez rencontrées?
Sur l'aspect logistique, bon, on avait tout prévu en amont, donc voilà, on avait nos salles de répétition, on avait déjà le théâtre, donc tout ça c'était déjà réglé. Donc après, les acteurs c'est pareil. Donc quand on a monté nous notre structure et qu'on a choisi la pièce, on avait déjà en tête. On n'a pas fait d'audition en fait pour les rôles.
D'accord.
On avait déjà en tête les comédiens qu'on souhaitait, et finalement ils ont tous répondu ok avec un
d'accord enthusiasme. En fait, vous aviez déjà pensé à des rôles pour chacun, ou chacun a pu choisir, il y a eu des négociations?
Non. Alors on a choisi cette pièce là donc Geoffroy et moi avons choisi cette pièce là et puis ensuite les rôles, on a tout de suite pensé à des comédiens pour jouer ces rôles là
et du coup, est-ce que ça aide? Est-ce que c'est un atout particulier de travailler déjà avec des personnes que l'on connaît, avec un metteur en scène que l'on connaît?
Oui, non. Non, je dirais quand même plutôt oui. Plutôt, c'est plutôt un avantage, en fait. C'est
oui.
plutôt un avantage. Et puis surtout, parfois, quand on a des choses à se dire les uns aux autres, en fait, on n'hésite pas. Vous voyez, même le metteur en scène, si on peut lui parler, si, alors que voilà, c'est quelqu'un qu'on connaît très bien, donc on sait bien que voilà, c'est lui le patron finalement, c'est ouais. lui qui nous guide et tout, mais on peut se parler franchement, voilà, et puis on peut s'aider entre nous aussi quand on se connaît bien, ouais. on peut se donner des conseils entre nous.
Cette pièce, donc un stylo dans la tête de Jean Jandel, a déjà été montée plusieurs fois. Est-ce que du coup, vous aviez déjà vu des versions de cette pièce ou pas du tout? Comment on arrive à se détacher en fait des autres mises en scène, des créations précédentes?
Bah, on les regarde pas.
Ouais. Hein.
Non, bah, surtout, enfin en tout cas moi, et je pense que mes acolytes font pareil, on préfère pas regarder et voir ce qui s'est fait déjà par voilà, moi je préfère vraiment créer mon personnage. Je veux qu'il vienne de moi. J'ai pas envie de copier sur.
Oui, qui viennent
ou de m'inspirer de quelqu'un, c'est vraiment.
Bien sûr. C'est oui, il faut pas qu'ils viennent voir et faire une comparaison, mais viennent simplement découvrir cette pièce telle que vous la proposez.
Voilà, mais par contre, oui, elle a été jouée notamment avec Francis Perrin, sur Paris. Il y a eu 200 représentations, donc ça a été un énorme succès. J'ai pas souhaité la regarder.
Ça se comprend très très bien. Après cette salve de représentation donc au théâtre Galabru entre septembre et décembre, tous les liens pour les réservations et les informations seront en description de l'épisode. Après cette création, est-ce que vous avez d'autres projets? Est-ce que cette pièce va continuer à vivre sa vie dans une autre salle, dans un festival?
Écoutez, on va se laisser porter. Si, comme on l'espère, si ça marche, ça pourrait être prolongé, pourquoi pas. Oui. Puis on envisage aussi de faire des tournées.
Oui.
Voilà, en province, en Belgique peut-être. il n'y a pas de limite, hein, dans un plus grand théâtre.
Bien sûr, bien sûr. Tout est possible.
Tout est possible, hein. Toutes les portes sont ouvertes.
Très bien. Et au niveau de la compagnie, Tout pour plaire, est-ce qu'il y a d'autres projets en parallèle ?
C'est le projet fort, c'est oui. Notre premier projet.
Surtout. D'accord.
Parce que, comme vous l'avez dit tout à l'heure, si justement c'est une compagnie qui s'est créée là en 2023, le but c'est de faire vivre des spectacles. Alors, comédie pour l'instant, parce que c'est ce qu'on aime bien. Tout s'est fait tellement, finalement, naturellement, facilement, que, encore une fois, donc je suis avec Geoffroy, on regarde tous les deux, mais on est surtout une famille, quoi, une équipe. Mmh.
En tout cas, ce que je ressens, c'est que non seulement ce projet a l'air de vous remplir de joie, et je sens une certaine sérénité dans votre façon de parler des projets et de cette pièce à venir. Ça vous nourrit tout ça, non?
Complètement, ça me nourrit, mais encore une fois, j'ai aucune raison de pas être sereine. Parfois, les chemins, c'est des destinées. Enfin, comment vous dire, moi, je crois en ça. Donc, je suis là où je dois être. Là, pour l'instant, c'est mon chemin et j'y suis très bien, vachement bien, j'allais dire. Mais je suis merveilleusement bien. et puis voilà, et puis on continue, et puis on verra. Et puis moi, j'ai une âme d'enfant, je m'émerveille facilement, je suis pleine de curiosité, donc j'ai toujours un peu fonctionné comme ça, donc je me laisse porter, et puis j'ai aucune inquiétude.
Je vous souhaite de très très belles représentations à venir, et puis longue vie à Tout pour plaire.
Merci.
Des beaux projets.
Merci Isabelle.
Et nous voilà devant la deuxième porte des coulisses. Deux beaux artistes nous attendent derrière cette porte. Claire et Anto sont dans l'authenticité, dans la sincérité, dans l'humilité et dans l'émotion. Oui, vraiment, tout ça. Avec eux, j'ai retracé leur parcours artistique, qui se mêle à leur parcours amoureux. Vous allez l'entendre, c'est vraiment très joli comme rencontre. Ils ont aussi beaucoup parlé de leur création, avec pas mal de détails, dignes de l'entrée des coulisses. Et ils ont beaucoup parlé de la force des rêves, des moments de blues que nous traversons tous et toutes, aussi importants que les moments de joie. J'ai adoré les rencontrer. J'ai adoré discuter avec eux et j'ai encore plus adoré la toute fin de l'interview qui a été vraiment du baume pour mon petit cœur. À vous de les rencontrer maintenant.
Nous sommes Claire et Anto.
Et nous sommes danseurs et comédiens.
Que se passe-t-il pour vous dans les coulisses ?
Je pense qu'en tant qu'artiste, on a chacun des rituels. Moi, j'ai besoin de... Je me mets les pieds à plat. J'ai besoin de sentir le sol, vraiment. Je dénoue tout mon corps. Je respire énormément. J'inspire, j'expire beaucoup. Je fais le vide. Je pense plus du tout à ce que je dois aller jouer ou danser sur scène. J'essaie de me recentrer sur moi, quoi. Sur le sol. Je pense à ça. Je me canalise, en fait. Mm. Ouais, c'est ce qui se passe pour moi en coulisses.
Et moi, je fais plein de trucs de dernière minute qui n'ont rien à voir avec le spectacle. ou alors, je mets du vernis, tu sais, alors que je monte dans 10 secondes sur scène. Ah, voilà, ce genre de choses.
D'accord.
Je pense que ça me permet d'avoir ma tête à autre chose et de ne pas penser au stress.
C'est ton moyen de déstresser, en fait.
Et de faire stresser en tout cas.
Et du coup, moi, ça me fait stresser, voilà. Quoi.
Ah, oui, j'imagine.
Voilà. C'est super.
Alors, Claire et Anto, ben, vous voilà enfin en chair et en os devant moi. Je suis vraiment super contente de vous rencontrer. Moi, je vous ai découvert par Instagram, certainement comme pas mal de gens. Je scrollais un soir sur mon canapé et je suis tombée sur une petite vidéo. Ça m'a attirée, en fait. J'ai trouvé ça hyper intéressant. Et du coup, j'avais envoyé un petit like, un petit signe, et paf, j'en ai reçu un autre en retour. C'est plutôt sympa. Et puis j'étais dans la préparation de mes épisodes et je me suis dit, bah tiens, pourquoi je leur demanderais pas ? Je ne savais pas du tout qui vous étiez et ce que vous aviez fait avant. Je tiens à le préciser, on va en parler un peu plus tard. Et donc c'est pour ça que je suis vraiment très contente de vous avoir devant moi. Et puis aussi de permettre aux auditeurs et aux auditrices du podcast de vous découvrir. Parce que peut-être qu'il y en a qui ne vous connaissent pas du tout. C'est parti ?
Allez, let's go.
Allez, let's go, c'est go. Alors, avant de former un duo à la scène comme à la ville, vous aviez forcément des trajectoires individuelles. Alors, je sais, Claire, que toi, tu viens plutôt de la danse, du hip-hop, mais pas que. Anthony, tu es plus centré sur le théâtre, l'impro, mais pas que. Racontez-nous un peu, qu'est-ce que vous faisiez chacun de votre côté avant que vos trajectoires se croisent ?
Claire, le micro est à toi.
Alors moi, à la base, je ne me destinais pas du tout à un métier de danseuse, bien que la danse était ma passion depuis petite. J'ai fait danse et piano, et c'est vrai que la danse, ça a pris de plus en plus de place dans ma vie. Je voulais être éducatrice spécialisée, je suis passée par la psycho. Ah oui. Donc j'ai eu une licence de psycho, je voulais être psychologue après. Et finalement, c'est un prof qui m'a donné encore plus la passion de la danse, qui s'appelle Salim Bagayoko. Et un jour, ça a pris un an à éclore, en fait, dans ton cœur et dans ma tête. C'est tellement devenu sulfureux à l'intérieur de moi que j'ai dit, c'est ça que je veux faire. Mmh. Du coup, je me suis lancée, j'étais pas toute jeune. J'ai pris des cours open à droite à gauche et j'ai réussi à entrer dans une carrière de danseuse. Mais c'est vrai que, en tant que danseuse, j'ai toujours adoré interpréter. Et pour moi, il n'y avait pas juste la gestuelle, en fait. Tu vois, ça se dissociait pas, en fait, de l'interprétation et de ce que je raconte. Donc, il y a toujours une part d'actrice, de comédienne à l'intérieur de moi. Et puis, ça a pris de la place de plus en plus. Et là, maintenant, je danse toujours. C'est toujours ma passion première. Mais maintenant, je joue aussi la comédie parce que c'est en moi aussi, quoi.
Oui, tu as ajouté une corde à ton arc qui vient compléter, en fait...
Exactement.
Ta manière de danser.
Et ma première danse, ma danse de passion, c'est le hip-hop. Oui. C'est la musique que j'écoute le plus, qui me transporte vraiment. Et après, j'ai développé aussi, je me suis mise au moderne et j'aime bien fusionner les deux. Mm-hmm. Donc voilà, j'ai fait plein de choses dans la danse, des trucs vraiment variés. J'ai pu faire autant des spectacles musicaux que des tournées d'artistes. Enfin, voilà.
Top d'avoir réussi. D'avoir réussi à changer ta trajectoire.
Ouais, c'est clair. Moi, je trouve que, enfin, j'ai envie de donner le courage à tous ceux qui ont envie de le faire parce que j'ai écouté ma petite voix intérieure.
Ouais.
Et je me suis dit, mais non, il y a que ça qui peut me rendre heureuse au jour d'aujourd'hui et c'est pas demain quand ce sera plus possible. Donc, let's go maintenant. Faut y aller. Au moment du tournant, j'ai bien fait. Au jour d'aujourd'hui, je suis contente de l'avoir fait, d'avoir suivi mon rêve. Et d'y être allée parce que je suis pleinement épanouie, c'est vrai, c'est vraiment ça que je voulais faire.
Surtout que tu as dit que tu avais commencé tardivement la danse, c'est ça ?
Alors j'en faisais depuis que j'étais petite, mais tu sais, comme les enfants font leur sport, tu vois, hebdomadaire, quoi. Ouais. Donc du coup, oui, parce que normalement, quand quelqu'un qui se destine au métier du sport ou tu vois, de la danse, etc.,
commence très très jeune.
En général, tu commences jeune, tu es en sport-études ou quoi, et moi j'ai vraiment commencé, 20 ans, tu vois, à m'y mettre à fond.
Ouais.
C'était pas tôt, mais ça n'empêche que justement, on peut le faire tardivement et ça peut marcher aussi, tu vois. Tant qu'on suit son envie forte, qu'on y va à fond et qu'on s'y accroche, c'est possible. Donc on peut tous changer de voie à n'importe quel moment, je pense.
C'est vrai. Anthony, alors toi, qu'est-ce que tu faisais avant de rencontrer Claire ?
Enfin, la différence de Claire, je suis vraiment dans le milieu artistique depuis que j'ai 13 ans, quoi.
Ah oui.
J'ai monté mon premier spectacle, j'avais 14 ans. Et alors, c'est vrai que j'ai été dans la comédie longtemps, dans le théâtre et l'improvisation, mais j'ai commencé, moi, par la danse, par le breakdance.
Ah, c'est drôle.
Donc, j'ai commencé par ça, par le corps, quoi, vraiment. Il y a un côté très physique dans le break, très sportif, très gymnique aussi. Et donc, j'ai découvert ma passion artistique d'abord par la danse.
D'accord.
Et l'anecdote que chaque fois Claire, je le rabâche sur la même anecdote, mais j'adore cette histoire parce qu'elle est vraie, c'est que un jour à la maison, un des membres de ma famille a ramené une vieille télé noir et blanc, vraiment les vieilles télés avec les touches qui se font sur le dessus de la télé pour changer de chaîne. Et en fait, l'antenne de la maison ne pouvait pas se câbler sur cette télé parce qu'elle était trop obsolète, trop vieille. Oui. Du coup, il y avait l'antenne de la télé et avec cette antenne-là, je captais que la 5e.
D'accord.
Et en fait, moi, j'avais pas le droit de regarder la télé dans le salon.
Non.
Vous allez voir où je veux en venir par rapport au théâtre, par rapport à la comédie. Et en fait, sur Arte, j'étais dans ma chambre le soir et en fait, ils rediffusaient les Charlie Chaplin.
Oui.
C'est-à-dire que chaque semaine, il y avait un Chaplin. Il y avait Les Temps modernes, The Kid, Les Feux de la rampe, Le Boxeur et tous ces courts-métrages qu'il a pu faire. Et moi, j'étais dans le break et dans la danse et en fait, j'ai découvert ce monsieur, sa façon de... Alors déjà, sa façon de bouger. Mais Charlie Chaplin, c'est surtout la façon de raconter les choses. Oui. Moi, qui m'a interpellé. Et j'étais vraiment gamin, quoi. Sans comprendre pourquoi, parce que quand on est jeune, on comprend pas vraiment les choses ou on les interprète pas, comme aujourd'hui, quand on est adulte. Et j'ai été fasciné par Chaplin, quoi. Comment il fait pour me parler alors qu'il parle pas? C'est en noir et blanc. Ça grésillait, ça captait mal, et pourtant je comprenais tout, je voyais tout. Et c'est là, en fait, que moi j'ai commencé à découvrir le théâtre du corps.
Oui.
Et je me suis intéressé à ça, au mime, au théâtre. Après, moi, j'ai fait du théâtre aussi textuel, en parler. Mmh. J'ai gardé ça, quoi. J'ai cultivé le théâtre du corps, le texte, l'improvisation aussi, ensuite. Et je me suis enrichi, en fait, de ces cultures-là, quoi. Mmh. Et je me suis mis dans la comédie à fond.
Est-ce que dans ta famille, il y a quelqu'un qui t'a influencé? Est-ce qu'il y avait des artistes, peut-être, dans ta famille?
Non, on n'est pas une famille du tout d'artistes. Moi, je suis le seul dans la famille. Après, il y a quand même une correspondance avec ma mère. Ma mère était très observatrice, à observer les gens, à imiter les gens, très, très gestuelle en fait aussi, très dans les mimiques, très dans la caricature et peut-être, je sais pas. Voilà, moi j'aime bien cette anecdote parce que peut-être que ma mère m'a donné un peu le truc, mais sinon, non, je pense qu'à l'intérieur de nous, on a des sensibilités qui ne sont pas conditionnés à la naissance et on les développe au fur et à mesure de notre ressenti sur le moment. À ce moment, moi, j'étais dans ma chambre, j'ai vu Charlie Chaplin, ça m'a parlé. Et jusqu'aujourd'hui encore, quand je parle aux gens, quand je mets des pièces de théâtre en scène, je saoule les gens avec Charlie Chaplin parce que c'est le gars.
C'est ta référence, quoi.
Ouais, c'est le gars.
Ce qui est drôle, c'est que j'avais la même passion pour Charlie Chaplin parce que moi, mes grands-parents m'ont... Bon, pareil, j'avais les cassettes vidéo, ils mettaient les cassettes vidéo dès qu'on allait chez eux à l'âge de la primaire, pré-ado, quoi.
Ouais.
Donc en parallèle, on a eu la même passion.
Pour Charlie Chaplin.
Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Et du coup, bah, moi, j'ai toujours été là-dedans dans le raconter des choses, que ce soit par le texte et aussi par le corps. Et je dissocie jamais l'un de l'autre.
Très bien. Donc, à un moment, effectivement, vous avez fini par vous rencontrer. Et donc, comment ça s'est passé? Racontez-nous votre rencontre.
Alors, on s'est rencontrés à l'époque. Donc moi, j'ai toujours un autre duo humoristique, justement corporel humoristique. Et on a intégré un spectacle aux Folies Bergères à Paris qui s'appelait Oh là là, le spectacle. C'était un grand spectacle, un peu cabaret, cirque. Il y avait plein de numéros, il y avait des aériens, de la danse, un gros, gros spectacle. Pour moi, à l'époque, jouer aux Folies Bergères, c'était juste incroyable. C'était vraiment... une opportunité qui marque un peu comme une vie aussi. Et le jour où je suis arrivé en répétition, le premier jour, il y avait le hall d'entrée des Folies Bergères. Pour ceux qui connaissent, c'est un hall qui est assez mythique. Hein, vraiment, c'est un hall qui est majestueux. Il y a certains costumes de l'époque qui sont en exposition toujours. Voilà, pour vous donner un peu le cadre et le contexte. Et j'ai rencontré Claire ici pour la première fois. Elle était, on répétait une chorégraphie de fin du spectacle. Et puis elle dansait un peu voilà, sur le côté. Il y avait plein de filles, mais c'est elle que j'ai vue.
Ouais.
Celle que j'ai vue. Et je sais que... Alors ça, c'est mon point de vue. Après, on va attaquer son point de vue à elle. Mm-hmm. Mais je ne voyais qu'elle. Et en plus, moi, il fallait que je m'accroche pour la choré de fin. Parce que moi, apprendre les chorés, pour moi, c'est un peu compliqué. Et j'étais là, et puis je regardais Claire. Oh, il y a cette fille et tout. Hein. Et ouais, ça s'est fait comme ça, quoi.
Mm-hmm. Et toi, Claire, comment t'as vécu ce
moment? Oui, moi, c'était effectivement aux Folies Bergères. Et pareil, en train de répéter cette chorégraphie de fin. Et en fait, Anthony Ndiaye était arrivé un peu après les autres artistes. Donc, je l'avais pas vu avant, en fait. Et quand à un moment donné, j'ai tourné la tête et j'ai dit, mais c'est qui, lui? Et bizarrement, il était en train de répéter la choré, il était un peu en galère sur le côté. Donc, c'était même pas, voilà. Et c'était même pas sa danse qui m'a ébloui sur le moment. Mais je sais pas si je ne saurais pas l'expliquer. C'était son aura, c'était ce qui dégageait. Je pense que c'est inconsciemment tout ce qu'il avait à l'intérieur qui m'a touchée en fait en deux secondes. Et j'ai dit mais et tout de suite après, bah, ça s'est développé de plus en plus. Et c'était genre, après, j'étais en train de répéter sur scène. Quand lui, il était dans la salle en train de regarder, j'avais 12 ans, quoi. J'osais plus danser, je faisais les mouvements à moitié. Tu sais, j'étais...
mignon.
J'osais pas, j'étais tellement timide. Je parlais avec son pote, mais jamais avec lui.
Tu vois, je regardais pas dans les yeux.
Non, je faisais style que je m'en foutais. Bah oui, je rigolais avec son pote, mais je pouvais pas, quoi. Mais c'est vraiment son aura qui m'a attirée.
C'est très joli comme rencontre. Est-ce que créer ensemble a tout de suite été une évidence?
Absolument, non, absolument pas. Au début, Claire, elle travaillait de son côté, elle faisait les spectacles qu'elle faisait. Moi, enfin, au-delà de ce spectacle, aux Folies Bergères, après, elle a fait ses plans, moi j'ai fait les miens.
Ouais.
Et pas du tout, ça nous a traversé l'esprit de travailler ensemble et de créer ensemble. Mmh. Un jour, on est parti à New York. Et parce qu'on était à New York et qu'elle aime le hip-hop et que moi aussi, on s'est dit, bon, on fait une chorégraphie un peu hip-hop, un peu retour aux sources. Et c'est tout, on est rentré après en France et c'est tout, quoi.
Et vous avez...
Tu vois ?
Alors, au début, non, mais c'est vrai qu'à un moment donné, on s'est dit, on pourrait... Oui, les prémices, c'était ça, c'était la vidéo à New York. Mais tu sais, on s'était dit, on pouvait raconter quelque chose à deux, moi, avec la danse et toi... Tu sais, avec, on voulait mettre les bruitages et la danse ensemble. Mais bruitage, pas simple beatbox, mais vraiment raconter des choses avec des sonorités, etc. Mais on n'a pas creusé finalement.
Non.
Après, on s'est resté dans un petit coin de notre tête, mais c'est parti.
Ouais, c'est ça. Ouais.
Du coup, qu'est-ce qui a déclenché le fait que vous avez fusionné comme ça vos deux modes de création?
En fait, il y a eu un peu le confinement, quoi. Comme pas mal de gens qui ont changé d'activité, des fois par chance ou par malchance, en fonction des expériences. Nous, Claire, pendant le confinement, on voulait maintenir un rythme et du coup, Claire, elle s'entraînait quand même dans le salon à travailler son freestyle, sa gestuelle, ses chorés, etc. Et moi, j'écrivais toujours. Moi, j'écris beaucoup, tout le temps. Et en fait, elle répétait. Donc, elle était en fond, elle était derrière moi. Elle travaillait son freestyle, elle dansait. Et elle se filmait avec l'iPad. En la voyant derrière moi, moi, j'avais mon stylo. Et puis, pour déconner, j'ai fait entrer le stylo dans le champ de la caméra.
Oui.
Forcément, il y a un effet de perspective, comme quand on touche la Tour Eiffel, vous savez, quand on est à Paris, etc.
Oui.
Et puis, ça nous a amusés. Et puis à partir de là, je lui ai dit, mais viens, on fait une petite vidéo, on a que ça à faire. Et on a chopé une musique, Claire, elle a fait une choré, on a vraiment timé le truc, chorégraphié mes doigts sur elle, bam, 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 avec une histoire légère. C'est moi qui essaie de lire pendant le confinement et elle qui met sa musique à fond. Du coup, parce qu'elle m'interrompt dans ma lecture, et ben moi, je décide de l'interrompre dans sa choré.
Ouais.
On a fait une vidéo, on l'a postée sur Insta, et ça a cartonné, mais vraiment, quoi. On a eu vraiment plein d'engouement autour de ça, forcément on s'y attendait pas.
Mmh.
Et à l'époque, on avait mis le hashtag Incroyable Talent. Et Incroyable Talent nous contacte et ils faisaient les talents de la semaine. Et ils nous disent, ah, vous êtes les talents de la semaine. Enfin, oh, c'est cool, bon, ça va pas changer nos vies. Pendant le confinement, il se passait tellement rien qu'on était content d'être le talent de la semaine.
Oui, bah oui,
oui, voilà. Et puis ça nous faisait garder un pied aussi dans l'artistique, quoi.
Bien
nous,
sûr.
On commençait un peu à flipper. Hein.
Mais on va reparler tout à l'heure de votre aventure Incroyable Talent, parce qu'on ne peut pas éviter d'en parler. On a vu que vous aviez, vous en avez parlé tout à l'heure, que vous avez en commun l'amour du cinéma, notamment du cinéma muet, Charlie Chaplin, enfin pas que muet, mais l'amour du cinéma. Est-ce que cet intérêt a été un point d'appui pour construire votre univers artistique?
On a un univers commun, mais on a aussi chacun notre univers dans la création. Claire, elle a vraiment le sien, moi j'ai le mien, ça qui est très intéressant d'ailleurs. Le cinéma, il était là dans la mesure où on a une façon de nous voir sur scène très cinématographique. C'est-à-dire que quand on est sur scène, par exemple, quand on crée, on essaie de ne jamais créer à plat, donc de danser frontal. Des fois, on se dit, ok, on danse de dos, comme si la caméra était de l'autre côté. Et on a un peu cet aspect, cet univers de vidéo et de caméra aussi qu'on apporte sur scène. Donc le cinéma, il est là en termes de réel, même sur scène, et aussi en termes de jeu. C'est-à-dire que quand Claire, elle danse, elle joue tout ce qu'elle danse.
Oui.
C'est vraiment ça sa force à Claire. Il y a la comédie et l'acting et dans sa danse. Et moi, pareil, quand je fais une mise en scène ou quand on fait nos trucs, à chaque fois, je lui dis, mais attends, qu'est-ce que ça veut dire? On raconte quoi?
Dans vos créations, est-ce que vous intégrez des petits morceaux de vous de manière symbolique, détournée ou au contraire de manière très directe, sans détour? Enfin, moi, j'ai l'impression que vous mettez beaucoup de vous quand même aussi dans ces petites vidéos, dans vos créations tout court.
Bah, c'est vrai que quand on crée, la plupart du temps, on est inspiré par ce qui nous touche finalement. Donc ça peut être par du vécu ou des observations, mais souvent bah, y aura un morceau de vécu, c'est sûr, parce que bah, on peut bien parler de ce qu'on connaît, de ce qu'on a vécu et de ce qui nous vraiment nous traverse et nous touche quoi, tu vois. Donc pour délivrer des choses aux gens, il faut qu'elles nous touchent. Donc souvent c'est vrai que il y a une part de vécu. Ou alors, ça peut être aussi des observations qui vraiment sont importantes pour nous, quoi. Oui, ce qu'on voit et ce qu'on a envie de bah, parfois dénoncer ou de souligner, enfin, tu vois. Mais c'est vrai qu'il y a plusieurs vidéos. Par exemple, il y en a une qui s'appelle, entre guillemets, on donne des noms à nos vidéos, oui. Qui s'appelle Freedom parce que c'est sur la musique de Freedom de Pharrell Williams. Et ça, c'est complètement autobiographique. Et ça peut aussi, enfin, chacun peut se projeter dans cette histoire. C'est autobiographique parce que ça raconte moi quand j'ai voulu commencer la danse, justement. Mmh. Et que, par exemple, dans ma famille, j'avais mon père qui était pas forcément pour. Et du coup, qui aurait pu, si j'avais suivi, en fait, son raisonnement, ça aurait complètement entravé mon rêve et ma destinée, finalement, tu vois. Mmh. Et donc ça, c'est vraiment autobiographique, par exemple. Donc ouais, on l'a délivré avec le cœur, avec ce qu'on a vécu. Et par contre, ça parle aussi à tout le monde. Enfin, les gens peuvent se projeter parce que je pense que malheureusement, ça arrive aussi à plein de gens.
En tout cas, on sent que dans vos créations, il y a des histoires, c'est sûr. Il y a des trames d'écriture. Et du coup, je me suis posé la question, est-ce que ça part au départ d'un texte? Est-ce que c'est très écrit? Est-ce que ça part d'abord d'une musique? Est-ce que ça part d'une improvisation? Est-ce que c'est un peu tout ça à la fois?
Tous les artistes vont avoir leur ce que j'appelle un processus de création. Mmh. Et le nôtre, il est quand même, il revient assez fréquemment. Ça part d'une envie de raconter quelque chose d'abord. Quelque chose qui nous est propre, qui, comme Claire l'a dit, qui soit va venir de notre vie. Donc là, c'est très personnel. Et donc, c'est à nous de délivrer cette manière de raconter ce moment de vie et de faire en sorte que les gens qui vont regarder la vidéo vont aussi se sentir concernés. Parce que souvent, ce qu'on a vécu, on se rend compte que d'autres l'ont vécu. Quand c'est une histoire qui ne nous est pas propre, c'est quelque chose qui va venir de l'extérieur, donc comme Claire l'a dit, qui va nous toucher. Et donc, du coup, dans ce cas-là, on se dit comment on peut délivrer une histoire que nous n'avons pas vécue, mais qui nous touche. Mmh. Le processus, donc, c'est ça. C'est trouver le thème, le moment de vie, le ressenti qui nous parle et qu'on a envie d'extérioriser.
Donc, vous discutez ensemble.
Voilà. Dernièrement, on a fait une vidéo sur le harcèlement dans les transports en commun. Ouais. Même le harcèlement, ça se passe dans les transports en commun, mais c'est le harcèlement en général. On s'est mis d'accord sur le thème et après, ok. Ça tombe bien, Claire, si tu veux, moi j'ai écrit un texte en rime, qu'est-ce que t'en penses? Donc elle va reprendre le texte, elle va faire ses modifs, il nous faut une musique qui aille dessus, ok, musique, et après, ok, et le corps et les procès, donc le corps, donc la chorégraphie et le storytelling, qu'est-ce que ça raconte? On part d'un personnage qui est dans les transports en commun et puis le procédé artistique, donc là on a mis de l'ombre et c'est une main en ombre qui représente les prédateurs qui harcèlent les gens dans les transports. Voilà, ça c'est un procédé pour une vidéo, mais en fait ce procédé-là il revient assez fréquemment.
Qu'est-ce que vous cherchez en fait à transmettre au public, aux gens? Qu'est-ce que vous voulez qu'ils captent de vos créations?
À la base, je pense qu'on ne cherche même pas, tu vois. À agir en fait sur les gens. Je pense qu'à la base on parle avec notre cœur, mais après c'est vrai que quand on fait quelque chose, forcément on a envie que ça touche les gens de la même manière que ça nous touche. En tout cas on essaye de leur parler, tu vois, on essaye de leur parler sincèrement, et quand on parle de quelque chose, souvent on se rend compte que on n'est pas seul à ressentir ces choses, tu vois. On est étonné du nombre de témoignages ou de messages des fois qu'on reçoit, et les gens nous disent merci, ça m'a fait du bien parce que moi aussi je vis ça.
Oui.
Tu vois, et là on se dit ah ok, en fait on est un peu tous pareils, tu vois, on est un peu tous traversés par les mêmes chagrins, les mêmes peurs, les mêmes angoisses ou des fois les mêmes envies, les mêmes rêves, tu vois.
Oui.
Donc en général, en fait, ça se fait spontanément. Nous on parle avec le cœur et puis finalement ça touche les gens dans le cœur, tu vois.
Puis une phrase assez célèbre qui dit « l'art est inutile ». Je ne sais plus de qui ça vient, mais c'est quelqu'un d'assez connu. « L'art est inutile » et en fait, moi je l'ai toujours cru ça. Je me disais « ouais, je ne suis pas très utile dans la société, mais j'aime ce que je fais, ça a l'air de faire du bien aux gens ». Et en fait, on se rend compte que bah, nous, quand on arrive à se sentir utile dans notre art, c'est ce que j'ai dit à Claire il n'y a pas longtemps, je fais, ça fait pas longtemps que moi je trouve mon rôle et je trouve mon métier d'utilité presque publique, et, mais ça fait pas longtemps.
Ouais.
Ça fait pas longtemps que ça, je le conscientise et que je me dis, waouh, ok, ça veut dire que ce qu'on ressent et ce qu'on partage, il y a des gens, ils arrivent à trouver du réconfort et, et vraiment sans prétention. Là, je parle vraiment d'émotion et de partage de ressenti.
Oui.
Comme quand on a des messages de gens qui nous disent merci, on fait ok, waouh, d'accord. Donc on peut raconter des choses, d'autres personnes vivent ces choses-là et je pense qu'on est une société où il y a de plus en plus de monde, ça va très vite. Et c'est rassurant de savoir qu'on n'est pas seul à ressentir telle ou telle chose. Ça fait du bien de savoir que son voisin, des fois, il va pas bien comme nous. C'est même pas malsain, hein. C'est humain. Ça fait du bien, en fait. Je crois que c'est ça qu'on apprécie dans ce qu'on fait aussi, quoi.
Ouais, puis ça ouvre l'esprit, ça pousse à l'entraide. Et du coup, ça décomplexe certaines choses. On se dit, ah mais ouais, mais en fait, c'est normal de pas aller bien, tu vois. Enfin là, on parle de ça, mais on a aussi des choses humoristiques.
Et
c'est kiffant aussi de donner le sourire aux gens parce que voilà, on a envie que ce soit quotidien, d'avoir le sourire, rigoler et tout. Mais
c'est
ça
bien.
Fait
mais ta phrase, elle est bien. Hein. C'est normal de ne pas aller bien. Il faut dans notre travail, surtout dans l'écriture, on accepte ça et on écrit comme ça. C'est normal des fois de ne pas aller bien et il faut pas. J'ai l'impression que ça, des fois, on en fait un démon. Et que,
ouais, eh bien,
il faut se laisser traverser aussi par ces moments, ils sont importants, quoi.
Et être traversé par des émotions dites négatives, la tristesse, quand on a un petit coup de mou, c'est hyper mal vu.
Ouais.
Donc, ouais, c'est vrai que c'est important aussi de mettre ça en scène et de dire aux gens, bah,
ouais, c'est pas grave. Et puis vraiment, cette société où il y a des coachs de motivation personnelle, des coachs de vie, où il faut être au top, il faut se relooker, Mais non, et ben non, pas que.
Pas que.
Moi, au lieu de dire aux gens il faut que tu réalises ton rêve et puis il faut être au top de toi-même, ben moi aussi, voilà, c'est un autre angle, un autre point de vue de dire aux gens, accepte d'avoir la flemme des fois de réaliser ton rêve, c'est une passade et profite de cette passade où t'as la flemme, quoi. Et puis tu voudras ton rêve, tu te mettras au boulot quand t'auras envie de t'y mettre aussi et moins de pression et laisse-toi traverser par ça, quoi.
Ouais,
aussi.
Je vais vous parler un petit peu du côté un peu technique, parce que c'est comme ça en fait qu'on vous a connu, hein. Donc votre caractéristique, c'est de mêler donc la danse, la comédie et de jouer avec la perspective. Alors pour mieux comprendre cette histoire de perspective, j'invite les auditeurs, auditrices à visionner vos différentes vidéos. J'ai mis dans la description de l'épisode tous les liens utiles. Mais est-ce qu'on peut un peu expliquer cette façon de faire? En gros, enfin, vous allez repréciser ça, en gros, vous jouez avec la caméra et la distance, en fait.
Je vous invite tous à prendre votre téléphone, à vous mettre en mode selfie. Il n'y a rien de mieux pour visualiser.
Ah oui.
Vous mettez en mode selfie, vous tenez votre téléphone dans la main et si vous avez une personne à côté de vous, mettez-la derrière vous, en arrière-plan. Et avec votre index, essayez de toucher sa tête. Et bien, la perspective, c'est ça la base. Sauf que, et du coup, ça, c'est une base. Et nous, on s'est dit, OK, on est dans le corps et dans la danse. Et bah, la personne qui est devant articule la personne qui danse derrière. Techniquement, c'est aussi simple que ça.
Il y a un côté très enfantin.
Totalement.
Hein?
Totalement.
Ça reconnecte à l'enfance, je trouve.
Ouais, c'est ça. C'est comme tendre un drap blanc et mettre une lumière et faire des ombres.
Oui, voilà.
C'est vieux comme le monde. La perspective, nous, on ne l'a pas inventée. Je vois Méliès, une institut dans la création du cinéma et des effets spéciaux. Il faisait déjà de la perspective. On a repris cette base ancienne. Et on a essayé forcément avec la mode du selfie, on l'a remis un peu au goût du jour. Et puis nous, avec ce qu'on a envie de raconter, avec
bien
notre
sûr.
Danse et puis notre technique à nous.
Alors, je vais poser deux questions complètement naïves. J'assume. Claire, comment tu sais quel geste de Anto doit déclencher un mouvement de ta part? Et en miroir, Anthony, comment tu fais pour être aussi précis?
Ok.
On est tellement connectés que ça se fait naturellement.
Oh, c'est tellement beau, mon Dieu, c'est magnifique.
Effectivement, il n'y a aucune préparation, il n'y a pas de chorégraphie, on est à l'écoute l'un de l'autre, c'est tout.
C'est magnifique, arrêtons-nous là. Ouais, je suppose qu'il y a du boulot, mais
non, quand même. En fait, c'est vrai qu'on est très à l'écoute, donc du coup, quand il va faire, agencer un mouvement, et ben moi, je vais le suivre en fait, tu vois.
Sais. Ben en fait, tu anticipes, tu devines.
Donc quand c'est avec la perspective, comme c'est avec l'écran. Donc on voit l'un l'autre ce qu'on fait. Quand c'est avec la perspective et du coup, on s'écoute. Donc on se suit et puis après on essaie de laisser parler l'imagination et de d'évoluer un peu instantanément, tu vois.
Mais ça veut dire que toi tu as un retour.
Oui, exactement. J'ai le retour.
Attends, toi tu parles dans la création ou dans l'exécution ?
Dans l'exécution,
on a une musique. Elle est sur la musique et moi je suis sur la musique. En fait.
Oui.
Donc en fait, moi, c'est tout simplement prenez un orchestre. Le violoniste va savoir ce qu'il sait jouer parce qu'il a sa partition, sans se soucier de ce que le gars à la harpe ou la fille à la harpe va jouer. Parce qu'elle a aussi sa... Nous, c'est pareil. C'est une partition.
D'accord.
Comme une pièce de théâtre, chacun son texte. Bah là, sur une musique, Claire, elle a sa chorégraphie et moi, j'ai ma gestuelle sur elle. En revanche, moi, qui suis le plus souvent qu'elle à la perspective, moi, j'ai un petit écran de retour. Okay. Comme en selfie, en fait.
Ok.
D'accord. Donc, même pour les émissions télé qu'on a fait, on rajoute un petit écran de retour, comme on fait au cinéma. Et donc, moi, le retour, c'est ma façon de voir où ma main est positionnée.
C'est ce qui te permet d'être aussi précis.
Ah oui, sinon c'est impossible.
Et toi, Claire, tu as donc un petit retour qui te permet de... Non.
C'est le retour d'Anthony. Donc, moi, il est beaucoup plus loin. Mais comme je connais ma chorégraphie, dans l'espace, c'est toujours la même chose. Donc, du coup, moi, je dois m'en tenir à ça pour que ce soit carré. Okay. Sauf que... Le truc de la perspective, c'est que ça modifie complètement les dimensions. C'est-à-dire que si tu bouges un tout petit peu, vu qu'on est loin, ça crée un grand écart.
Oui.
Donc du coup, on doit vraiment être précis chacun pour que ça reste vraiment millimétré.
Mmh. Okay.
Et des fois, parce qu'il y a un petit espace-temps, tu vois, qui fait que... Enfin, tu vois, c'est tellement pas palpable, vu qu'on se touche pas et qu'on est loin l'un de l'autre. Il y a quand même cet écran qui fait qu'on doit être connecté et on doit toujours faire attention. En même temps que je danse, je suis pas sereine. Hein, je danse pas toute seule non plus, tu vois. Je dois faire attention à ce qu'on soit toujours... On s'adapte l'un l'autre, enfin, tu vois.
Okay. C'est presque sans filet, en fait. Hein. Quand vous êtes en représentation, dans une émission, c'est...
Ouais.
Claire a énormément d'expérience de live et de scène, et moi aussi. Oui. Mais quand on a commencé à faire un autre truc, et en plus en télé au début, la marge d'erreur est tellement grande et incontrôlable et hors de portée, comme tu as dit, sans filet. Ouais. Et au début, on s'est dit, on y va et passons au pire, on fait n'importe quoi. Vraiment, on y allait en mode, on fait...
Après tout, les gens ne savent pas ce qui doit se passer.
Et puis, on s'est rendu compte que c'était quand même, ça pouvait se travailler et ça pouvait se maîtriser. Donc, ça nous a rassurés. Mais au début, on était pas tranquille. Hein.
On peut pas éviter évidemment de parler de votre participation à l'émission télévisée Incroyable Talent. C'est une aventure qui vous a mené dans différents pays, donc en France effectivement. Vous êtes allé jusqu'en demi-finale.
Oui.
Vous êtes allé en Espagne, dans les versions des autres pays, donc en Espagne, en Roumanie, en Italie, au Portugal.
Portugal, oui.
Dont tu es originaire, Anthony.
Oui, mon
tout
père
comme
est
moi.
T'es portugais. C'est vrai ?
Oui. Vous êtes allé France, Espagne, Roumanie, Italie, Portugal. Comment vous avez vécu ces incroyables expériences ? Parce que ça a dû être absolument fou, tout ça.
Ouais, c'est... en fait, effectivement, on a fait Incroyable Talent en France, c'était en 2020, je me semble, c'est ça, 2020. Déjà, l'expérience française, forcément, jouer à domicile dans notre pays, il y avait un contexte très particulier, ça s'est fait il y avait confinement, etc.
Oui.
L'émission a failli s'annuler, nous, on s'est dit, oh là là, on était trop heureux de la faire, un coup oui, un coup non. Nouveauté totale pour nous de faire ce numéro qu'on n'a jamais joué à l'extérieur. On l'a répété vraiment, sans mentir, dans le salon, quoi.
Oui.
C'est même pas...
C'est ce que vous racontiez tout à l'heure.
Mais c'est, dans le salon, quoi. Avec un appareil photo à la maison et tout. Donc on l'a fait en France. La première émission a été juste incroyable à vivre. On a recréé un deuxième numéro pour la demi-finale. On l'a créé encore chez nous. Ça a été incroyable aussi parce qu'on s'est poussé en termes de création.
Ouais.
Et on s'est dit, ok, c'est cool, quoi. Et peu de temps après, ce qui s'est passé, c'est que c'est les États-Unis qui nous ont contactés le lendemain de la demi-finale en France.
Ah,
America's Got Talent.
The Americans.
Ça, c'était incroyable. C'était incroyable de se faire contacter par eux. On l'a toujours pas fait. Hein. Bon, ça, c'est les États-Unis. Okay. Bon.
C'est un projet, peut-être.
Voilà. Les États-Unis, c'est les rois, ils contactent. Mais en tout cas, ils étaient intéressés par nous. On s'est dit, waouh. On n'a pas eu de nouvelles ensuite. On s'est dit, bon. Sauf qu'après, effectivement, il y a eu l'Espagne. On est parti. Là, ça s'est fait rapidement. On a été en Espagne, on a fait l'émission.
C'est eux qui vous ont contacté aussi ?
Ouais, ouais.
D'accord. De fil en aiguille, en fait.
Ouais, parce qu'en fait, ce qu'ils appellent les Got Talent, c'est une firme, hein, c'est une franchise. Oui. Ils ont une base de données où il y a toutes les vidéos stockées de tous les pays. Donc, ils peuvent les consulter. Ils ont une bibliothèque. Okay. Donc, ils font leur marché, en fait. C'est un peu ça, Got Talent. Voilà. Ils nous disent, voilà, c'est original, on aimerait vous avoir. Donc, on est parti en Espagne. Effectivement, après, on est parti faire une émission. On a été en Italie, on a été en Roumanie, on a fait le Portugal, comme tu as dit. Et puis, c'est juste incroyable de voyager avec notre premier numéro, c'était Singing in the Rain, chantant sous la pluie.
Ouais.
Et en plus, en rigolant, quand on était en répète au tout début avec là, je fais, tu vas voir, avec ce numéro, on va faire tour du monde. Bon, je rigole. Enfin, je l'aurais voulu dans le meilleur des mondes, mais je rigolais, quoi. Tu vois. Et en fait. Ouais. Waouh, non, mais de voyager, en plus en couple,
oui.
D'aller faire quelque chose qui nous passionne, quand il y a tout ça mélangé, c'est vraiment. Là, on se dit. La force des rêves. Et puis, on se dit, comme un Spartacus aurait pu dire, gratitude. C'est vraiment ça, quoi, c'est gratitude.
Ouais, de voir que ça traverse les frontières, c'est incroyable, ça fait plaisir. Tu dis, ah, bah, c'est universel, en fait, ça touche. C'est pas français, en fait. Tu vois, ça intéresse d'autres gens ailleurs et c'est génial de pouvoir partager au-delà des frontières avec d'autres gens.
Et puis en plus, dans ce que vous faites, c'est qu'il y a un côté absolument intemporel et au-delà des frontières. Parce que dans ce que vous avez présenté, très souvent, il n'y a pas de parole. C'est la musique, c'est la gestuelle. Mais il y a, comme vous disiez tout à l'heure, une histoire, une trame qui raconte quelque chose. Et j'ai l'impression que l'on soit en Roumanie, en Italie, au Portugal, en France, je ne sais plus quel autre j'ai oublié, ou en Amérique, ou je ne sais où, chacun peut s'y retrouver.
C'est
peut-être ça aussi qui a fait que vous avez eu ce succès.
Intérêt. Effectivement, si ça avait été un numéro avec texte seulement, ça se sera arrêté là, voilà.
Ouais, c'est vrai que dès lors que tu racontes des choses, ça touche n'importe qui. Oui, effectivement, s'il n'y a pas la barrière de la langue. Et comme nous, dans Singing in the Rain, on est très un peu à la Charlie Chaplin. Bon, j'ai pas la prétention du tout de faire ce qu'il fait, mais tu sais, très dans la comédie muette.
Oui.
Quasi burlesque. Choses.
Voilà, il y a beaucoup de burlesque. On exprime des choses avec notre visage aussi. Donc du coup, ça parle à tout le monde finalement.
Ah oui,
c'est
ça. On va parler du prochain spectacle. Vous êtes encore en pleine création. En pleine création.
On est en pleine, d'ailleurs, on est en train d'enregistrer le podcast. Et après, on part en répétition, pour te dire.
Encore plus, merci.
Exactement.
Donc, le prochain spectacle s'appelle Sur un fil. Qu'est-ce qui raconte ce titre ? Dans quel univers vous nous emmenez cette fois-ci ?
C'est l'histoire de deux personnes qui ont chacun une valise lourde de leur passé, de leur vécu. Finalement, comme tout le monde. Donc c'est la valise de notre vie, donc qui contient tout ce qu'on vit, toutes les relations qu'on a avec les autres, nos émotions, etc., nos charges émotionnelles. Et ils vont arriver à un moment de leur vie où ils sont un peu sur le fil de leur vie. Entre deux, ils sont prêts à basculer. Et finalement, leur rencontre va leur permettre de souffler, de se soutenir l'un l'autre et de rendre cette valise plus légère. Grâce à leur connexion, à tout ce qu'ils vont trouver au quotidien pour un peu libérer des choses, partager leur tristesse, leurs moments, etc.
D'accord.
Et ils vont être aussi traversés du coup par leurs souvenirs. Donc ça va être une succession de souvenirs qui vont venir, par lesquels ils vont se laisser traverser, parce que c'est ce qu'on disait tout à l'heure, on a le droit d'aller mal et il faut se laisser traverser pour aller mieux. Donc du coup, ça va être une succession de souvenirs comme ça. Qui vont se libérer avec le texte, avec le corps, la danse, avec eux, tout ce qu'ils ont dans la tête et leur folie. et ça va être aussi, exprimer grâce à tous les procédés qu'on utilise, nous, dans nos créations, c'est-à-dire la perspective, la caméra, etc.
Et bien justement, dans cette création, vous intégrez une autre technique après celle de la perspective. Et du coup, j'ai pioché la question d'un auditeur du podcast. Mm-hmm. Alors, je ne peux en sélectionner que deux, parce que le podcast n'est pas extensible en temps. Mais du coup, j'ai sélectionné justement celle de Deschned, qui est un jeune auditeur, et qui, voilà, sa question tombe à pic justement. Et il pose la question: quel processus de création vous a amené à utiliser les jeux d'ombre? C'est bien de ça, du coup, dont il s'agit.
Bien sûr, oui. Effectivement, on a intégré, au-delà de la perspective, la danse, le texte. Moi, dans mon univers théâtral, et donc de scène, je suis passionné de scénographie, surtout de visuel.
Oui.
J'ai toujours aimé créer des visuels pour raconter telle ou telle chose et intégrer des nouveaux éléments. On s'est dit, et si ces ombres-là pouvaient venir et intervenir dans le spectacle pour raconter des choses? Donc on en a fait d'abord un numéro qui s'appelle Expérience. Mmh. Là, les mains dans ce numéro-là traduisent un petit peu cette part d'ombre qu'on a tous, contre laquelle il faut se battre. Il faut non pas se délaisser, mais il faut se battre, et avec laquelle il faut aussi cohabiter tout au long de sa vie pour pouvoir avancer, se sentir léger. Donc on l'a intégré de cette façon. Là où on a intégré aussi les ombres dans le spectacle, c'est que, comme Cara l'a dit, c'est un voyage dans nos souvenirs. C'est-à-dire que le spectacle commence, on comprend que ces deux-là, ils sont chargés du poids de leur vie. Mmh. Et dans le spectacle, les spectateurs vont comprendre en fait pourquoi ils sont chargés. Donc on remonte. C'est pas une histoire avec une dramaturgie, une histoire chronologique. Mmh. On remonte dans leurs souvenirs. C'est vraiment des flashs de souvenirs, comme on peut voir dans certains films au cinéma. Pour plonger les gens dans le souvenir, on a décidé de non pas d'avoir des décors concrets sur scène, mais de faire apparaître des décors miniatures devant cette lumière en ombre qui apparaissent en géant sur notre toile derrière nous.
D'accord.
Donc du coup, les décors ne sont jamais vraiment précis, ils sont en ombre, parce que souvent un souvenir, il ne nous vient plus aujourd'hui de façon précise, mais
il
est flou, exactement, c'est ça, t'as tout dit. Et du coup, l'ombre, pour traduire le souvenir, pour nous c'était logique. Donc, c'est pas juste un procédé technique artistique pour impressionner ou pour donner du visuel. C'était qu'il allait dans notre dramaturgie, tout simplement. C'était logique, en fait, de l'intégrer. C'était logique. Et finalement, même nous, la façon dont on l'utilise, c'est aussi une perspective.
Oui.
Parce que moi, il est en tout petit et il apparaît en grand au loin. Ça va.
C'est magique.
C'est magique. Donc, il y a énormément de nostalgie dans ce spectacle-là.
Il va être très très beau, ce spectacle. Alors, enfin, il
espère.
Est programmé quand? Où va-t-il se passer, si vous avez déjà des pistes?
Bien sûr. Alors, on est en pleine création. À la base, on s'est dit, ouais, on va le jouer en janvier 2024. Oh, impossible. Parce que on a énormément travaillé. Ça, et puis, le spectacle, comme nous, on le veut, nécessite beaucoup plus de temps. Mmh. Et là, on aimerait le jouer fin mai 2024 à Paris.
Oui.
Et on aimerait, alors là, ça reste vraiment, on aimerait, dans nos plans, faire le Festival d'Avignon 2024.
Oui. J'ai sélectionné une seconde question d'un auditeur du podcast. Il s'agit de Guy. Guy est professeur de théâtre et Guy a visionné un extrait, justement, vous en parlez tout à l'heure, il a regardé Expérience, parce que je l'avais partagé sur le compte Instagram de l'entrée des coulisses. Et du coup, voici sa question, qui n'est pas si simple, mais du coup, je l'ai sélectionnée parce que je la trouvais intéressante.
Alors, Guy, on n'a pas compris les questions.
Je l'ai simplifiée.
OK. Mais...
parce qu'elle était vraiment très longue. Mais en substance, voici ce que Guy vous pose comme question. Quel conseil donneriez-vous pour encourager mes élèves débutants à croire en leur créativité et ainsi à occuper l'espace comme vous le faites magistralement, pour qu'ils se mettent finalement, eux aussi, en perspective vis-à-vis du public?
Yes.
Et Guy, il nous a posé 10 questions en une.
Ouais, grave.
Bah, attends, ça, la question de Guy, c'est un podcast à lui tout seul.
C'est vrai. Bon, faudra revenir, on va reprendre rendez-vous.
Non. On est deux, on va essayer d'y répondre à deux.
Alors, moi, donc, je viens plus de la danse. Donc, voilà, pour moi, le théâtre, la comédie, c'est plus récent. Donc, je vais répondre un peu spontanément avec mon background de danseuse.
Ouais.
Moi, j'aurais envie de dire qu'il faut s'écouter et qu'il ne faut pas se mettre dans un cadre, en fait, que c'est du spectacle vivant. Donc, il faut vivre ce que l'on fait. Et du coup, ne pas se mettre de limites. c'est un peu facile à dire comme ça, mais en tout cas, être dans ce qu'on fait à l'instant présent, ne pas essayer de délivrer quelque chose pour un public, entre guillemets, de base. Vraiment, c'est comme nous, quand on crée avec le cœur, etc. Et du coup, on ne se met pas de limite à la créativité. Du coup, déjà, l'espace va être occupé de la bonne manière. Enfin, voilà, on va évoluer avec ce qu'on raconte. Je pense que ça pousse à la créativité. Je ne sais pas trop si je réponds à cette question. Mais en tout cas, voilà ma réponse.
Il y a des solutions.
Bien sûr.
Oui. Il y a des solutions. Pousser des élèves à avoir confiance en eux et en leur créativité. Mais ça rejoint ce que Claire va dire. En fait. Genre, moi, j'ai fait pas mal d'impro et ça m'a aidé énormément à ma créativité. Donc, je dis pas aux gens d'aller faire de l'impro, forcément. Ça va sur le lâcher prise.
Oui, voilà.
Lâcher prise, donc c'est...
C'est ce que j'entends, en fait, dans ce que vous dites.
Ça veut dire que dans l'enseignement et pour ces élèves-là, pour moi, c'est sonder un peu ces élèves-là sur ce qu'ils aiment, ce qu'ils aimeraient raconter. Ça peut être juste un ressenti, ça peut être un moment de vie, ça peut être tout et n'importe quoi, quelque chose de léger, quelque chose un peu plus dramatique, voilà, quelque chose un peu plus sombre, et de pas mettre de limites sur les procédés. Donc ça peut être dans le corps, dans l'impro, dans du vocal, dans du chant, dans du, même si c'est un cours de théâtre, en fait, si ces élèves là ils se retrouvent à se séduire eux-mêmes dans leur improvisation, ils vont aussi aimer ce qu'ils viennent de créer, ils vont tomber amoureux de leur création et ils vont vouloir la porter encore plus, et du coup ils vont avoir une vision vers l'avant. Ils vont avoir envie ensuite de la partager. La perspective, c'est ça, en fait.
Ouais.
Et voilà, ça peut être en tout cas une astuce, je trouve. Je ne sais pas si elle est applicable à tout le monde, mais en tout cas, c'est à essayer, quoi.
Et essayer de se dire, justement, parce que des fois, on se dit, ah oui, mais par exemple, le théâtre, c'est tel code, ou la danse, c'est tel code.
Oui.
Donc, on essaye de respecter des pseudo-normes. Mais en fait, l'art, c'est pas ça. C'est se permettre plein de choses, tu vois.
C'est la
Donc,
liberté,
du coup, ouais voilà. Donc, comme il disait Anthony, le lâcher prise, de ne pas se demander si c'est valable pour cette discipline, mais se laisser parler tout ce qu'on a à l'intérieur, tu vois. Du coup, tu peux associer plein de procédés artistiques, comme il disait Anthony, et puis, tu vois, ça prend une autre dimension.
C'est ça. Avant de vouloir raconter une grande histoire, une pièce entière, prendre juste un moment. Mais vraiment, des fois, c'est même pas un moment dingue. Hein. C'est juste un personnage qui est dans son coin, les autres qui le regardent, et puis l'autre tout seul qui se rend compte qu'on les regarde. Et qu'est-ce qui se passe ? Juste un moment bête comme ça.
Ouais.
Et le tirer dans le corps. Et le rendre burlesque. Et occuper le plateau. Et que juste ce petit moment tout bête devienne une scène mythique.
Ouais.
Ça, quand si les acteurs et les élèves sont sincères dans ce qu'ils font, c'est agréable à jouer, en fait. Et à regarder aussi.
Aussi.
Ah oui.
Bon, bah, Guy, voilà. Plein d'astuces et de réponses pour tes élèves. On va arriver au bout de notre conversation, de notre échange. Pour les auditeurs, les auditrices, je voudrais respécifier que, encore une fois, je me retrouve face à face avec mes invités, ce qui n'est pas une habitude. Le dernier invité, c'était Diefa, qui était là en face de moi, dans ce petit studio prêté par la charmante Tsipora. Merci.
Merci.
Bah, merci. Moi, j'ai adoré papoter avec vous.
Ah, pareil, c'était vraiment.
Merci pour tes questions qui sont super judicieuses, en fait. Et
ouais.
On voit que tu as creusé notre univers.
Et que tu es passionné aussi, ouais.
Ouais.
Et souvent, les gens passionnés deviennent passionnants pour ceux qui les écoutent, c'est vrai.
Exactement,
hein.
Bah oui, parce que tes questions, elles sont.
En fait, moi, j'ai eu la sensation que là, avec toi, on a vraiment partagé un moment.
Ah oui.
Tu vois.
Ah bah merci.
Et en fait, nous, avec Claire, on est vraiment comme ça. Même dans notre spectacle, puis dans notre philosophie, dans notre mantra de création, et humainement aussi, on essaie, nous, de se pousser dans nos retranchements et dans nos rêves pour nous alléger. Et en fait, quand on voit en face de nous aussi des gens qui sont dans la même démarche, nous, enfin, on adore. Là, on est dans du partage. Et encore une fois, elle l'a dit, Claire, on invite vraiment tous les gens qui ont un truc en tête, quoi. Mais peu importe ce que c'est, hein, vraiment peu importe. Là, on parle d'artistique, mais peu importe.
Oui, peu importe.
Et on sait que c'est pas simple. Hein. On sait que des fois, on est seul face à nous-mêmes, hein, qu'il n'y a personne autour pour comprendre, pour nous aider. On sait que c'est dur. Il y a la réalité, il y a le quotidien. Mais en tout cas, s'il y a une petite lueur, foncez, allez-y. Et puis voilà, puis nous, c'est ce qu'on ressent avec toi. On sent que la démarche, elle est sincère. Bah, on est dans le partage.
En fait, toi aussi, t'es une artiste. On est tous là. Enfin, nous, on crée, mais toi aussi, tu crées, quoi. Tu entreprends quelque chose, tu le mets en place. Enfin, franchement, chapeau. Hein.
C'est ça.
Ouais.
Ben merci beaucoup à vous. Merci.
Avec plaisir.
Merci à toi.
Voilà. En dehors du beau compliment qu'ils m'ont fait, ce sont de belles personnes, non? Vous trouvez pas? Je vous invite à suivre leur compte Instagram pour être informé de leur actualité et surtout ne pas rater l'annonce des dates de leur spectacle Sur un fil. Et puis, je vous invite aussi à regarder leur portrait chinois filmé sur la chaîne YouTube de la compagnie La Danse des Mots qui, vous le savez maintenant, hein, je le dis assez souvent, qui produit ce podcast. Allez, sans transition, derrière la troisième et dernière porte des coulisses, nous retrouvons Marion, Marion Lorgnet, de Théâtre en mille et un lieux. Et Marion, dans sa rubrique historique, nous raconte le parcours de l'actrice Sarah Bernard. Vous savez que 2023 marque le centenaire de sa mort et on a plein de choses à apprendre de cette dame. Dis-moi Marion, il me semble qu'on raconte plein de trucs incroyables sur Sarah Bernard, non ?
On a tout dit sur Sarah Bernard. Qu'elle avait fait le tour du monde dans le costume de Phèdre, qu'elle dormait dans un cercueil, qu'elle collectionnait les fauves et les amants, qu'elle avait été une influenceuse avant l'heure, qu'elle avait une jambe de bois. Eh bien, tout cela est vrai. Enfin, presque. Allons à la rencontre de cette grande dame devenue célèbre dans le monde entier grâce à son talent immense, mais aussi à son sens de l'image et à son insatiable soif de vivre. La future grande Sarah est née Rosine Sarah Bernard en septembre ou octobre 1844 à Paris, d'un père vite parti en exil et d'une mère courtisane. Mais impossible de connaître avec exactitude la date de son anniversaire, car son acte de naissance a brûlé dans l'incendie de l'hôtel de ville de Paris en 1871. Voilà qui confère déjà au personnage un caractère mystérieux. Mise en nourrice à Paris, Sarah ne reçoit aucune vraie éducation et souhaite rejoindre sa famille au plus vite à Paris, mais sa mère refuse. De dépit, la petite se jette par la fenêtre et parvient ainsi à ses fins au prix d'un bras et d'une rotule brisée. Un succès chèrement payé qui témoigne déjà de cette incroyable force de caractère qui accompagnera Sarah toute sa vie. Après une longue convalescence, la voici en pension à Auteuil, puis à Versailles, où elle va rester pensionnaire pendant 6 ans. C'est là qu'elle découvre sa vocation pour le théâtre, en jouant le rôle de l'ange Gabriel pour une pièce écrite en l'honneur de l'archevêque. Grâce à l'amant de sa tante, le duc de Morny, qui est tout de même demi-frère de l'empereur Napoléon III, elle suit des cours de sculpture et de peinture. Et en 1859, elle rentre au Conservatoire d'art dramatique sur une lecture inspirée des Deux Pigeons de Jean de La Fontaine. Puis elle intègre la Comédie-Française et la quitte tout aussi rapidement pour avoir giflé une sociétaire. Qu'importe, elle s'en va en Belgique et elle en revient enceinte du prince Joseph de Lally. À Paris, elle donne alors naissance à son fils unique. En 1865, à 20 ans, la voilà au théâtre de l'Odéon. Elle côtoie Georges Sand et Alexandre Dumas, qui lui confient le premier rôle féminin de sa pièce, tandis que Nadar tire son plus célèbre portrait. Après la chute de Napoléon III, Victor Hugo, de retour d'exil, lui donne le rôle de la reine d'Henri Blas. Le chef de file du romantisme la surnomme alors la Voix d'Or et lui permet de devenir une star. D'autres surnoms viendront ensuite, comme la Divine ou la Scandaleuse. Mais la silhouette longiligne de Sarah ne plaît pas à tout le monde. Moins élogieux que ses contemporains, Alexandre Dumas suggéra même qu'elle ressemblait à une éponge sur un manche à balai. Enfin, que voulez-vous, on ne peut pas plaire à tout le monde. Sarah devient bientôt l'élue du public et acquiert bientôt un succès international. Artiste excentrique et engagée, Sarah Bernard n'hésite pas à assumer ses prises de position politique. Quand Paris est assiégé en 1870, elle transforme son théâtre en hôpital militaire. Après la Commune, elle défend l'anarchiste Louise Michel. Au moment de l'affaire Dreyfus, elle affiche publiquement son soutien pour Émile Zola. En 1878, lors de sa tournée à Londres, qui fait d'elle la première star du monde du spectacle, elle donne pas moins de 37 interviews le lendemain de son arrivée. Le public est témoin de son excentricité. En visite au zoo de la capitale, elle ramène un guépard et un caméléon sur son épaule. Plus tard, elle adoptera un crocodile, qui ne fera qu'une bouchée de ses pauvres bichons, et un boa constructeur, qui périra tragiquement après avoir gobé les coussins de son canapé. Sarah a aussi des talents de peintre et de sculptrice. Elle s'est d'ailleurs fait construire un atelier-salon monumental fréquenté par le tout Paris mondain. Elle y expose des autoportraits en bronze ou en marbre et des objets à la frontière entre l'objet et la sculpture. Chez Sarah, excentrice et classique ne sont pas antinomiques. Ainsi, elle retourne à la Comédie-Française pour jouer. Elle est magistrale dans Phèdre de Racine ou Hernani de Victor Hugo. En 1880, elle démissionne pour former sa propre compagnie. Elle part se produire aux quatre coins du monde, à Londres, à Copenhague, mais aussi en Russie ou aux États-Unis. La dame au Camélia triomphe sur la 5e avenue. Des tournées américaines, la star en fera au moins 7. Elle est payée gracieusement, 5000 francs or par représentation, soit l'équivalent de 20 000 euros aujourd'hui. À l'époque, c'est du jamais vu. Âgée de plus de 50 ans, elle joue des rôles de jeune homme dans Le Rezzaccio d'Alfred de Musset, Hamlet de Shakespeare ou bien L'Aiglon d'Edmond Rostand. À la toute fin du 19e siècle, Sarah Bernhardt est témoin d'une incroyable révolution, l'invention du cinéma par les frères Lumière. Véritable touche-à-tout, elle ne peut pas passer à côté. En 1900, la voilà qui devient actrice de cinéma, en jouant dans le film Le Duel d'Hamlet de Clément Maurice. Elle y tient le rôle d'Hamlet. En 1914, en récompense de son œuvre immense, elle reçoit la Légion d'honneur. Après avoir joué dans d'innombrables tragédies, vient le moment le plus dramatique de sa vie. En 1915, en raison d'une tuberculose osseuse, un chirurgien l'ampute de sa jambe droite. Elle a 70 ans, une jambe en moins, mais elle continue de jouer sur scène, même s'il faut se produire assis. Sa devise, rappelons-le, est quand même. Rien ne l'arrête. Elle rend même visite aux soldats sur le front de la Grande Guerre, dans une chaise à porteur. Parfois, elle se lève et joue debout, aidée d'une jambe de bois qu'elle ne supporte pas. C'est justement en plein tournage du film de Guitry La Voyante que le monstre sacré, comme l'appellera Cocteau, commence à montrer des signes de fatigue. Elle ne supporte plus ses crises dues à une insuffisance rénale aiguë, qui finissent par l'emporter le 26 mars 1923. Sarah meurt dans les bras de son fils, à Paris, à 79 ans. Un siècle plus tard, sa légende est bien vivante. Voilà, maintenant vous savez tout, ou presque, de l'incroyable Sarah Bernhardt.
Nous voilà à la fin de ce long épisode. J'espère qu'il vous a apporté un peu d'évasion dans votre début d'automne. La nouveauté, c'est que les rubriques sont écoutables séparément pour une écoute sur mesure. Les liens directs sont dans la description de l'épisode. Ça se passe uniquement sur YouTube pour le moment. Gardez la force de vos rêves, comme vous l'ont dit Zaya, Claire, Anto et même un petit peu cette Sarah Bernhardt. À très bientôt. Allez-y, on referme les coulisses.